Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité quelqu'un qui est déjà passé devant mon micro. Le 5 mai 2017, Grégory Pouy, fraîchement arrivé de New York, déclarait « L'élégance passe par le porté de corps et ne s'achète pas ». Depuis, Grégory, véritable analyste culturel, a créé deux podcasts, Vlan et Ping, a écrit un livre, a quitté Paris pour aller vivre au Portugal, fait des conférences et vient de créer un kit de secours pour réparer les cœurs brisés. Vaste programme. Bonjour Grégory.
Salut Valérie.
Eh, que de choses. 7 ans.
7 ans, c'est fou. Hein,
tu te souviens, tu débarquais de New York.
J'arrivais tout juste.
Voilà. Et là, maintenant, le Portugal.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je me suis amusée à reprendre tout ce que tu nous avais dit, et j'ai beaucoup ri, qui était très intéressant cet épisode. C'est pour ça que je te réinvite d'ailleurs.
Ah,
est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
C'est toujours un peu une question compliquée, je trouve, de se présenter parce que c'est des histoires qu'on raconte. Et donc, il y a plein de manières de se présenter. Souvent, quand on dit « tu peux te présenter », aujourd'hui en tout cas, on va commencer par sa carrière, tu vois. Il y a quelques années, je pense que tu aurais commencé par… Enfin, quelques années, on n'était pas nés, mais on aurait commencé par « je viens de ce village », etc. etc. Moi, je vais commencer par dire ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de faire, c'est peut-être ma raison d'être, entre guillemets, c'est de transmettre. Autant que je peux, des valeurs qui me semblent importantes, de permettre aux gens de faire la différence entre la réalité et, pas la fiction, mais les imaginaires. Parce que ces imaginaires qui nous permettent de collaborer ensemble sont aussi des vrais problèmes. Par exemple, l'argent qui est un imaginaire. Enfin, plein de choses sont des imaginaires. Et la réalité, c'est que...
L'argent est un imaginaire, mais on en a besoin.
Ouais, mais je peux te préciser, mais c'est pas une réalité, c'est un imaginaire quand même. La réalité, c'est par exemple les limites planétaires, tu vois. Ça, c'est une réalité physique. L'argent, c'est un imaginaire. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'argent. Tu vois, même la valeur de l'or, c'est un imaginaire. Et si on parle des diamants, par exemple, c'est aussi un imaginaire, parce qu'en fait, des diamants, il y en a à profusion. Simplement, l'industrie fait en sorte de les distribuer de manière, tu vois, au compte-gouttes, pour que ce soit cher, mais finalement, il n'y a pas de valeur. Enfin bref. Donc, j'essaye de faire ça et j'essaye d'aider les gens à être un peu plus sereins dans un monde qui est un peu complexe. Donc ça, je le fais à travers Vlan. J'essaye d'aider des personnes en position de leadership à participer à la transformation de la société parce qu'en fait, on en a besoin et je crois beaucoup au rôle des entreprises et ça, c'est ping. Et j'essaye d'aider les gens de manière générale, tu vois, et ça, c'est le kit de secours.
De
cœur brisé et de manière générale transmettre.
Tu te dis analyste culturel, j'ai vu ça sur ton site. Ouais. J'aime bien ce terme.
C'est vrai. C'est un terme que j'ai inventé.
très bien.
Parce qu'en fait, je ne savais pas définir ce que je fais.
Moi, je peux te le dire.
Ah oui.
À part podcasteur et ça, mais c'est pas ça. En fait, non. Pour moi, analyste culturel, j'ai l'impression que tu essayes de nous donner des clés pour mieux comprendre notre société et pour mieux avancer.
Ouais, complètement.
Je t'ai bien cerné.
C'est exactement ça. J'essaie exactement de faire ça. Et je pense que ça permet d'être plus serein, de comprendre la société, de comprendre ses rouages, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre, tu vois, dans mon TEDx, je parle de ça, je fais un TEDx aussi entre-temps, la différence entre bien vivre et bien être, de comprendre de quoi l'humain a vraiment besoin, de comprendre que l'accumulation, parce qu'en fait, la définition du succès, c'est en général, ou du bonheur, ou pas du bonheur, du succès ou de gagner dans nos sociétés, c'est l'accumulation, donc de pouvoir, d'argent, de biens, de notoriété, Mais ça, c'est des by-products, entre guillemets, d'un besoin plus fondamental, plus intime. En fait, on a 5 besoins fondamentaux. Et c'est important de se poser la question, c'est quoi mon besoin fondamental?
Alors, c'est quoi nos 5 besoins?
Les 5 besoins fondamentaux, c'est être aimé, être respecté, appartenir, avoir ses intérêts protégés et trouver du sens. Voilà, ça, c'est 5 besoins fondamentaux de l'humain. Et en fait, on a tous besoin des 5 en réalité, mais... c'est quoi le truc qui te manque le plus? Qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu achètes une Ferrari, quand tu te promènes avec je sais pas trop quoi, quand tu veux avoir une...
Quand t'as un hit bag.
Un hit bag, quand t'as une très belle fille à ton bras, quand t'as un mec très puissant à côté de toi, quand... J'en sais rien, enfin tous
ou,
ces
ou
trucs.
Ou même quand t'es toi, même très puissant, ouais. Connu, est-ce que t'en es, t'es pourtant... Est-ce que t'es heureux? Pas forcément.
Non, complètement. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai abandonné cette idée d'accumulation d'une certaine manière. Un petit peu, pas complètement. Je reste... un être de la société, donc je ne l'ai pas abandonné. Mais en tout cas, je m'en suis un peu détaché. Maintenant, je privilégie vraiment mon bien-être à mon bien-vivre.
C'est pour ça que tu as quitté Paris ?
Ouais, c'est totalement pour ça que j'ai quitté Paris. Moi, je suis parisien, donc j'ai aucun problème à vivre dans la ville. Et d'ailleurs, j'y reviens de manière régulière. J'ai quand même acheté un appartement ici, un petit appartement, mais je l'ai acheté quand même. Et je suis parti à Lisbonne, d'abord parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville où il y avait du soleil. Et
parce
l'océan.
Que tu avais fait Londres, New York.
Non, j'ai pas fait Londres. J'ai fait Birmingham.
Ah, Birmingham, oui.
Ouais, j'ai fait Birmingham. Birmingham, Paris, Luxembourg. Luxembourg, ouais. New York.
Tu vois, pour le soleil, c'est pas top.
Ouais, non. Hein, ouais. New York et Lisbonne. Et Lisbonne, en fait, j'y suis allé parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une capitale où il y a du soleil et où tu es à l'océan. Et je pensais à Barcelone, mais j'aime pas trop Barcelone. J'ai étudié à Marseille, mais j'avais pas envie de vivre à Marseille. Et du coup, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais viens à Lisbonne !» J'étais déjà allé à Lisbonne. Mmh. Et en réalité, j'avais pas forcément capté quoi que ce soit. Et quand j'y suis retourné, c'était pendant le Covid, donc 2020, comme plein de gens. J'ai bougé pendant le Covid. Et en fait, de manière post-rationnelle, je peux expliquer que Lisbonne, ce qui est génial en dehors de ça, du soleil et de l'océan, c'est que il n'y a pas trop de boutiques. Et moi, à Paris, je me sentais un peu agressé par les boutiques, le fait d'acheter, alors qu'en fait, tu es en train, c'est pareil, acheter, c'est un by-product d'un besoin plus fondamental. Mmh. Donc, c'est quoi le besoin fondamental? Parce qu'acheter, bon...
Oui, voilà. T'achètes pour peut-être parfois, notamment, c'est le cas pour les femmes,
ouais.
T'achètes des fringues pour te consoler.
Ouais, c'est ça, pour essayer de compenser un truc.
Un manque.
Mais plutôt que de compenser, autant aller directement au besoin, tu vois. Mmh. Et mon besoin, c'était plus de sérénité, parce que je peux pas aider les gens à être plus sereins si moi je suis pas plus serein. Et à Lisbonne, t'as beaucoup moins de charge mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas d'insécurité. Alors, quand je dis insécurité, moi je crois pas qu'il y ait d'insécurité en France. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'insécurité. Moi je crois que... On peut en discuter, mais je crois que entre vivre à Gaza et vivre ici, si tu veux...
Ah oui, il y a quand même une différence.
L'insécurité, c'est vraiment insécurité physique. Nos corps, pour les femmes, c'est un peu différent, bien sûr, mais on n'est pas dans des situations... on nous parle d'insécurité toute la journée, mais la réalité, c'est que... Voilà. Néanmoins, à Lisbonne, tu peux laisser ton téléphone sur une table au café et aller aux toilettes. T'as pas besoin de demander qui que ce soit, de vérifier. Personne va le prendre, en fait.
Et oui, ça, c'est pas dans leur mentalité.
Non, en fait, t'as pas trop d'insécurité. Tu vois, moi, j'ai une moto à Lisbonne qui, ici, pourrait pas rester dehors de nuit. À Lisbonne, elle est même pas attachée, elle est dehors. Et là, je suis parti pendant 10 jours et je vais revenir, je sais qu'elle sera là.
Donc, c'est paisible.
C'est paisible. T'as ça, t'as pas les gens qui s'engueulent. En fait, comme les gens vont moins mal, bizarrement... à Paris, bah les gens s'engueulent pas dans la rue. Et ça c'est con, mais cette violence du quotidien, en fait, on fait pas attention quand on vit à Paris, on a l'habitude, mais quand tu sors, et quand tu sors un petit moment, tu reviens et tu vois, c'est lourd, en fait. C'est ça pèse, donc c'est de la charge mentale.
J'ai interviewé une fille juste avant toi, une femme qui me disait que, pareil, elle a quitté Paris pour aller vivre dans le Luberon, et elle me disait, ce qui la marque, c'est elle-même, quand elle habitait à Paris, elle était habillée tout le temps en noir.
Ah oui.
Et elle me dit, finalement, quand je reviens, je trouve que les gens sont toujours très tristes et toujours habillés en noir.
Faut que tu me dises qui c'est, parce que ma meilleure amie est partie vivre dans le Luberon.
Ah. Catherine Tisserand.
Ah, Catherine. Elle est partie à... D'accord, je ne savais pas.
Alors, on continue. Alors, avant de chiffonner, de revenir sur tes propos d'il y a 7 ans...
Oui.
Mais je vois que t'as pas changé au niveau des couleurs. T'as un pull coloré.
Ouais, j'ai un pull coloré. J'ai un bonnet encore plus coloré dans ma poche.
J'aimerais que tu me parles du kit de secours pour cœur brisé.
En fait, quand on s'est rencontrés, donc c'était en mai 2017, j'allais ouvrir Vlan. J'allais lancer Vlan. Vlan, ça date de mai 2017, ça a 7 ans bientôt. Et je venais de me faire larguer d'une histoire passionnelle, très intense, à laquelle on ne peut pas trop échapper, je crois, que quand ça te prend, ça te prend et tu c'est comme un tourbillon, en fait, tu rentres dedans. Et c'est une histoire qui m'a énormément blessé, qui m'a traumatisé, en fait, en réalité. Parce que, d'abord, une histoire passionnelle.
Et la passion, ça brûle.
Et la passion, ça brûle très fort. Et aussi, une rupture nette, sans explication. C'est-à-dire qu'en fait, cette fille est partie sans jamais m'expliquer pourquoi elle avait rompu, sachant que un mois avant, elle était hyper amoureuse, enfin, passionnément amoureuse, en fait. Pas juste très amoureuse, genre passionnément amoureuse. Et que ce jour-là, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas où j'en suis, je sens que j'ai besoin d'un peu de temps. Et voilà, c'était la fin.
Plus rien.
Plus rien. Et ça, c'est fini.
Mais tu fais pas une différence entre passion et amour ?
Non. je fais une énorme différence entre passion et amour. La passion, c'est pas nécessairement de l'amour. Mais en tout cas, c'était très passionnel. Et même un an après, quand je lui ai demandé pourquoi, tu vois, je lui ai demandé à la voir, parce que moi, j'étais tellement mal. Elle a jamais voulu me dire ce qui s'était passé. Elle m'a dit, ouais, peut-être que j'étais pas amoureuse. Donc en fait, je pense que j'ai compris maintenant. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour m'en remettre. Et j'ai remarqué autour de moi les personnes qui comprenaient pas pourquoi ça prenait autant de temps. On est dans une société en réalité qui est tellement performative, où tout va très vite, où on a envie que tac tac tac, tu passes d'un truc à un autre. Et parfois, en fait, ça prend du temps. C'est de la peine et c'est difficile.
C'est bien
dur.
L'avouer.
Mais non, mais c'est vrai.
Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se l'avouent pas.
Ouais,
donc ça se traduit souvent par des dépressions, des choses comme ça.
Ouais, ça peut être ça, mais moi c'est surtout ce qui m'a le plus blessé, je sais pas si blessé c'est que j'arrivais plus à quand je dis que j'ai été traumatisé, c'est que j'arrivais plus à tomber amoureux. Donc j'ai fait plein de rencontres.
Traumatisé.
Et je tombais pas amoureux. Donc en fait ce qui m'a blessé finalement, c'est de pas réussir à tomber amoureux de qui que ce soit. Du coup, j'ai blessé d'autres femmes d'une certaine manière parce que comme j'étais pas amoureux, du coup, j'arrêtais l'histoire parce que je ressentais rien en fait. Donc donc voilà, et en fait j'ai réussi à retomber amoureux en janvier cette année, enfin l'année dernière du coup, 2023. Même si cette histoire n'a pas marché, je me suis dit ça y est, c'est guéri. Entre temps, j'ai fait des tonnes de trucs. Hein. J'avais deux thérapeutes, j'ai fait de l'ayahuasca. En 2018, j'avais une voyante, une astrologue, même plusieurs voyantes. J'ai fait des tonnes de thérapies.
Parce que tu cherchais l'amour.
Non, parce que
les voyantes, c'était pourquoi ?
Alors, je voulais savoir, oui, bien sûr, je cherchais l'amour. Et puis, non, je cherchais à aller mieux. En fait, moi, j'avais vraiment pas envie de sombrer de quoi que ce soit. Je voulais vraiment aller mieux. Et donc, je me bataillais dans tous les sens. Donc, j'ai fait des thérapies, j'ai vu des énergéticiens, de tout ce que tu veux. Enfin, vraiment.
Et qu'est-ce qui a le plus marché, finalement ?
Écoute, je sais pas, je pense que c'est un ensemble de tout. La présence des amis, bien sûr. C'est un ensemble de tout ce qui a conclu. On va dire, parce que ça serait pas juste de dire que c'est ce qui a le plus marché, c'est juste que c'est la dernière chose que j'ai faite et qui fait que je suis tombé amoureux derrière, c'est une constellation familiale.
Que tu t'es créé.
Que j'ai pas créé, non, que j'ai fait avec une thérapeute.
Ah, pardon, ah oui, j'avais pas compris.
Ah non.
Qu'est-ce que c'est une constellation ?
Alors, une constellation familiale.
Voilà, on sort carrément de chiffon, donc c'est spécial amour, on va le sortir le jour de la Saint-Valentin.
C'est ça.
Ah, parfait.
Une constellation familiale, c'est quoi ? C'est assez magique, finalement, assez étrange. En fait, j'ai fait une constellation familiale parce que on m'en parlait depuis longtemps, mon frère, des amis, et j'avais un petit blocage, j'y croyais pas, je comprenais pas le truc, et je me suis dit, c'est de la merde. Et en fait, au moment où je me suis rendu compte que je voulais pas le faire, je me suis dit, c'est à ce moment-là où je me suis dit, si tu veux pas le faire, c'est qu'il y a un petit blocage, donc tu vas le faire. Et donc, une constellation familiale, ça consiste avec il y avait deux thérapeutes, qui te parle pendant un petit quart d'heure du sujet que tu as envie de traiter. Mais bon, c'est un quart d'heure, c'est très rapide. Ensuite, tu as une série de participants, on devait être une dizaine.
Ah oui.
Donc, tu rentres dans une salle carrée comme là, ton salon. On est tous assis sur une chaise. Personne ne connaît l'histoire de personne. Et la thérapeute dit, aujourd'hui, on va traiter... aujourd'hui, maintenant, on va traiter le sujet de Valérie. Donc Valérie vient au centre, tu t'assois sur la chaise à côté de moi, tu ne dis rien. Et j'ai demandé qui a envie de jouer le rôle de la mère de Valérie, du grand-père de Valérie, de machin. Et il y a des gens qui se sentent appelés. Si t'es pas appelé, elle va te dire bah toi j'aimerais bien que tu joues le rôle. Et en fait c'est très chelou. Hein.
je suis en train de te regarder avec des
attention. Et en fait elle va te dire ok qu'est-ce que tu ressens là maintenant. Et toi, tu n'as strictement rien de la personne. Je veux dire, tu es pas magicien. Et donc, tu dis ce que tu ressens, mais en fait, t'en sais. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça tombe juste. Je peux pas l'expliquer, c'est pour ça que je dis que c'est assez magique. C'est que...
Et t'as besoin de combien de séances ?
Non, t'en fais une.
Une seule ?
Oui.
Et ça t'a vraiment aidé ?
Ouais.
Bah, écoute, donc, chères auditrices, auditeurs, si vous voulez passer par là, allez voir, allez contacter Grégory.
Alors moi, je ne fais pas de constellation moi-même, mais je peux vous connecter avec des thérapeutes qui le font, bien sûr. Mmh. Et en fait, c'est fou. Et ça peut être des... Et tu vois, de manière géniale, j'ai trouvé, c'est que j'étais qu'avec des femmes. Mmh. Et je ne sais pas si c'est... Voilà, mais rien que ça, c'était assez magique. En fait, elles avaient... Tu te rends compte que dans leur histoire... personnel ou leur histoire de famille, donc leur mère, leur grand-mère, il y avait eu un viol, il y avait eu un inceste, il y avait eu une violence faite aux femmes. Et moi, j'arrivais avec un côté féminin très développé et quelque part, j'apaisais cette relation à l'homme, tu vois. Et c'était hyper bizarre parce qu'en fait, c'était pour le coup pas destiné, c'était pas voulu, c'était, tu vois, encore une fois un peu magique de se dire, bah tiens, il y a cet homme qui a un côté féminin développé qui vient dans une situation un peu inverse. Alors, pas de violence, bien sûr, quoique on peut parler de violence psychologique, mais c'est pas vraiment une violence. C'est aussi une violence que je me suis faite à moi-même. Je pense que cette personne, en l'occurrence, elle m'a beaucoup aimé. En tout cas, elle était passionnément amoureuse. Et je pense pas qu'elle ait voulu me faire de mal, en réalité. Mais en tout cas, moi, je l'ai mal vécu. Ça, c'est une autre histoire.
Mais elle t'a beaucoup aidé aussi, quelque part. Si t'as fait tout ce chemin.
Oui, c'est ça. En fait, quelque part, tu peux dire qu'elle a fait tout ce que j'ai fait tout ce chemin. Et donc, pour revenir à ce kit, parce que finalement, c'était ta question initiale.
Donc, c'est 100 cartes.
Alors,
ça
attends.
Se lit comme un
livre. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'était. En fait, pour moi, c'est mon petit kintsugi à moi. C'est-à-dire, en fait, un kintsugi, c'est un art japonais qui permet de. Plutôt que d'essayer de cacher, quand t'as cassé une porcelaine, plutôt que d'essayer de cacher les fêlures, tu les embellis avec de l'or. Tu vois. Et pour moi, en fait, ce kit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. Plutôt que de cacher mes fêlures, de dire, ah ouais, non, moi, le cœur, pas de problème, j'ai pas de.
Ouais, je vais très bien. Une de perdue, 10 de retour.
Voilà, etc. En fait, j'ai créé ce kit avec Olympe de G, qui est une bonne amie, qui est une féministe, qui a créé un podcast aussi qui s'appelle Vox, qui a fait plein de choses. Et en fait, c'est pas un jeu, parce qu'en fait, ça ne se joue pas.
Oui, parce que moi, je croyais que c'était un jeu de cartes, et
non,
pas du tout.
Ce sont des cartes.
Avec des thématiques
avec
hyper
des thématiques,
intéressantes.
C'est ça. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de résumer en 100 cartes. Toutes les sciences qu'on a pu trouver dans le monde, que ce soit les neurosciences, que ce soit la psychologie, la sociologie, la philosophie, le féminisme, tout ce qu'on a pu trouver qui pouvait aider les gens en situation de rupture ou en situation de mal-être, comment tu peux traverser ça. Et donc, on a structuré ça en 5 parties qui sont comprendre, agir, se confronter, réfléchir. Et des punchlines, les punchlines, c'est justement pour répondre à tes amis qui te disent une de perdue, 10 de retrouvée, ou c'est qui a quitté l'autre, ou toutes ces phrases un peu à la con qu'on te dit quand tu romps. Mais en fait, c'est très profond, c'est pas du tout un oracle, on peut l'utiliser comme un oracle, tu peux en tirer une en disant c'est peut-être celle-là qui me correspond, mais c'est pas un oracle dans le sens où il y a vraiment du fond, enfin tu vois, tu les as devant
toi. C'est super intéressant, là j'ai tiré, donc là je suis dans la partie comprendre pourquoi je me sens triste, la solitude peut-elle être positive, pourquoi j'ai moins confiance en moi. Je me sens en décalage. Un conseil pour se sentir mieux, caresser les animaux. Et
on explique, en fait, c'est tout expliqué, backé par de la science, etc. Enfin, tu vois, il y a vraiment des longues explications. Donc, c'est pas juste, tu vois, des cartes avec des phrases positives, quoi.
Ma colère est-elle positive ?
Voilà.
Est-ce que tu as été en colère ?
Alors, la colère, c'est un sujet, pour moi, qui est un peu particulier parce que j'ai très peu de colère. Ça m'a toujours surpris, je me suis dit, si j'ai pas de colère, c'est qu'elle doit être cachée quelque part, il faut que je la cherche, tu vois, c'est quand même pas normal. Et donc, je l'ai cherchée. Et en fait, il y a une thérapeute, enfin une voyante, qui m'a dit, non, mais en fait, cherchez pas, vous avez très peu de colère. C'est juste que vous avez très peu de colère.
C'est ton côté féminin romantique.
Non, je pense que les femmes se mettent en colère aussi. Enfin, les femmes sont pas que féminines d'ailleurs. Mais je sais pas d'où ça vient. Je suis apaisé en fait. Je crois vraiment. Ça m'arrive de me mettre en colère, hein, bien sûr. Mais c'est extrêmement rare et c'est souvent assez superficiel.
Alors aujourd'hui, tu as 47 ans.
Oui.
Ouais. T'avais 40 ans.
Ouais.
Est-ce que t'es le même qui a 7 ans?
Ah bah j'espère que non. Mmh. On bouge en permanence. Je crois que, tu vois, quand tu regardes les clés du bonheur, il y a plein d'études qui ont été faites sur le bonheur. Entre autres, il y en a une qui a été faite par Harvard, qui est la plus grosse étude sur le bonheur. Donc bien sûr, les premiers éléments, c'est être en bonne santé, créer des liens durables, profonds, c'est trouver du sens, c'est à la fois, qu'elle soit spirituelle, religieuse, ça n'a pas besoin d'être religieux. Mais... Et il y a une des choses, un des éléments qui arrive avant la sécurité financière, c'est d'évoluer, de se transformer. Donc j'espère que je suis pas le même qu'il y a 7 ans. De toute façon, j'ai fait toutes ces thérapies entre-temps. Donc non.
Mais ça sonne un peu comme des injonctions au bonheur aussi, non ?
Je crois pas, non. Alors, il y a une injonction au bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur n'est pas... Enfin, plutôt, le cerveau humain, tel qu'on l'a, toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, n'est pas structuré pour maximiser le bonheur. On n'est pas structuré comme ça. C'est pas comme ça qu'on est fait. Donc, en fait, le bonheur... On doit se le créer. Moi, je pense que surtout, ce qui est important, c'est de maximiser les moments de joie. La joie, c'est plus intéressant que le bonheur, parce que le bonheur, ça, en fait, le bonheur est relatif, c'est-à-dire qu'en fait, le bonheur, il est relatif par rapport à ta vie, c'est-à-dire que c'est des moments up par rapport à des moments qui sont soit down, soit des moments qui vont être neutres. Donc le bonheur, c'est au-dessus, tu vois. Donc tu peux pas être tout le temps au-dessus parce que sinon, ça devient ta normalité, donc il y a plus de bonheur. C'est pas le bonheur.
Ouais, logique.
Tu vois, c'est assez logique. Donc ce que tu dois chercher à faire, c'est d'abord te reconnecter à la joie, et aussi un truc sur lequel notre cerveau n'est pas très bon. On en parle beaucoup, tu l'as entendu 1000 fois, c'est d'être dans la pas dans la bienveillance, mais enfin la bienveillance c'est super aussi, mais d'être dans la gratitude. En fait, notre cerveau, il est ingrat. En fait, et alors pourquoi il est ingrat? Peut-être. Alors, on fait pas du tout un truc chiffon, mais on va
dire. Non, j'adore.
Je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, qui sont là, on va parler de mode.
Je suis sûr que... Elles sont toutes pendues à tes lèvres, là.
Je sais pas. Mais en fait, la gratitude, c'est un sujet intéressant. En fait, j'ai écouté un psychologue spécialisé sur la gratitude qui t'explique qu'en fait, le cerveau, il est la manière dont notre cerveau il est construit, c'est qu'il est adaptatif. Et c'est génial parce que si par exemple tu perds un membre. Pas un membre de ta famille, mais un membre, c'est un bras, jambe, etc.
Tu le sens.
Comme toi, si tu as une grosse maladie, etc., etc. Ben en fait, en réalité, ton cerveau, il va adapter. Et donc, normalement, tu vas retrouver ton niveau de joie, de bonheur que tu avais au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une période de deuil, d'acceptation qui va être difficile, bien sûr. Mais en fait, tu vas retrouver ton niveau de joie. Ou ton niveau de bonheur. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'adaptes à toutes les situations que tu peux avoir dans ton quotidien. Donc, c'est pour ça que je parlais de sécurité. Aujourd'hui, on parle d'insécurité. En fait, on est en sécurité. La réalité, c'est que si demain, après, je vais sortir dans la rue, il n'y a aucune chance que je me fasse poignarder. Enfin, aucune chance. Il y a une petite chance, mais enfin, quand même, elle est microscopique que je me fasse poignarder dans la rue ou que je reçoive une bombe sur la tête. Oui. Tu vois, enfin, la probabilité, elle est quand même... extrêmement
donc
tenu.
Donc, tu dis merci. C'est
donc,
ça
oui, en fait, en fait, c'est un exercice mental. C'est pour ça que quand on parle de gratitude, en fait, il faut comprendre que notre cerveau, par défaut, je peux prendre un exemple que le psychologue prend et que je trouve génial. Quand tu fais un footing et que tu cours, tu es face au vent et c'est dur et tu te dis, putain, le moment où je vais me retourner, que j'aurai le dos à moi, ça va être tellement bon, quoi. Et donc, tu cours et tu luttes et machin et tu te retournes au bout d'un moment et tu as le vent derrière toi, donc il te pousse et tu en profites et tu fais, ah, pendant 10 secondes, et tu te reconcentres sur ce qui ne va pas. Et en fait, c'est toute une question de perspective, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder, et c'est normal, c'est la manière dont notre cerveau fonctionne, donc je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit.
Le verre à moitié vide.
On regarde au microscope notre vie. On a beaucoup de mal à prendre de la perspective et à regarder de haut. Donc, je peux te donner plein de perspectives. On en parlait juste avant en off, mais si tu as plus de 40 ans, bah, en fait, tu vis plus longtemps que la majorité de l'humanité. Si tu vis dans une démocratie, en fait, tu vis de la meilleure manière que la majorité des gens sur la planète. Si tu gagnes plus de 27 000 euros par an, tu es déjà dans les 1% des plus riches de la planète. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de perspective. Et bien sûr, tu dis oui, bon, il y a toujours pire ailleurs, etc. Mais oui, en fait.
C'est
un travail que tu dois faire pour être dans la gratitude.
Et tu le fais, cet exercice, tu le fais tous les matins, tu le fais le soir, tu...
Ben, moi, je sais pas pourquoi, j'avoue que j'en sais rien, mais je suis dans cette gratitude un peu naturelle. Tu vois, par exemple, je me souviens, j'étais cet hiver, ma mère et mon père, ma mère et mon père est décédé malheureusement, sont venus me voir à Lisbonne, donc pour Noël, Et la veille de Noël, donc le 23, on était à la plage. Et il faisait tellement beau, on mangeait en t-shirt. Et moi, j'étais limite plus dans la gratitude qu'eux. C'est-à-dire, en fait, là, genre, je m'extasiais de... Enfin, je trouvais ça génial, quoi.
Je pense que c'est un état d'esprit aussi.
Sans doute.
Et de merci, comme on dit, dire merci tout simplement à ce que la nature nous envoie. Ou,
ouais, complètement.
Mais ça, c'est une question de sensibilité, je pense.
Sans doute. Mais en tout cas, moi, je suis beaucoup là-dedans. J'ai cette chance.
C'est une chance et une force. Alors, la dernière fois, tu t'es avoué très esthète. Bon, féminin, ça, on a compris.
Oui, ça, c'est clair.
Tu adorais faire du shopping avec tes copines. Et surtout, donc, ta définition de l'élégance, c'était lié aux portées de corps.
L'élégance, ouais.
Alors, c'est quoi ta définition de l'élégance?
L'élégance et la beauté, c'est pas pareil. En fait, je pense que ce que je voulais dire, c'était surtout ça, se dire que la beauté... Bon, il y a une beauté physique qui est voilà, très relative, mais néanmoins qu'on peut reconnaître. Mais en fait, pour moi, c'est ça qui compte, c'est l'élégance. Et l'élégance, c'est effectivement pas les fringues, c'est la manière dont tu tiens ton corps. Et ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé ?
Non. Pour moi, l'élégance, tu peux être très élégante en jogging. Ou tu peux être très élégant en jogging.
Ah, tu restes sur ta position.
Ouais,
est-ce qu'une femme en jean basket est toujours aussi sexy pour toi ?
Ouais. Mais pour moi, ce qui fait qu'une femme est sexy, c'est plein de choses. C'est d'abord ce qu'elle fait dans la vie.
Un métier peut rendre une femme sexy ?
Ah bah ouais, bien sûr. Enfin, tu vois.
Tu vas nous sortir le mythe de l'hôtesse de l'air et de l'infirmière.
Ah non. C'est si une femme elle a un impact,
une femme puissante.
Pas nécessairement puissante, non, c'est pas forcément puissante. Puissante dans à son niveau à elle, tu vois. De toute façon, on est puissant à son niveau à soi, mais pas forcément. C'est vrai que c'est sexy quand même. Enfin, quoique, étonnamment.
Ah, t'aurais adoré te faire Elisabeth Borne, par exemple.
Non. Non. Mais par exemple, moi, je suis sorti, j'ai eu cette chance de sortir avec des filles brillantes. Et moi, je trouve ça ultra sexy. Enfin.
Ouais, mais alors, une fille qui t'écoute et qui nous écoute et qui n'a pas confiance en elle. Ça peut lui faire de la peine d'entendre ça, non ?
Pourquoi ? Non, en fait, pour moi, alors, dans mes amis, je me rends compte d'abord que les filles qui gagnent beaucoup d'argent ou qui ont des jobs, justement, un peu puissants, elles ont du mal à rencontrer des mecs parce que les mecs, ils n'aiment pas trop ça, en général. Les filles qui gagnent plus qu'eux ou les filles qui sont plus connues qu'eux, ou, tu vois, ils ne sont pas trop fans, en général. Donc, déjà, ça doit pouvoir rassurer toutes ces personnes-là qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Je pense qu'il y a des mecs, je ne suis pas tout seul, qui aiment bien ça. Et puis après, pour toutes celles qui, toutes celles ou ceux d'ailleurs, qui, mais bon, je pense que c'est pas exactement la même dynamique des deux côtés, qui sont pas dans des jobs très particuliers, ben non, ce qui va rendre sexy quelqu'un, c'est aussi sa bienveillance, sa gentillesse, etc. Aussi, tu vois, bien sûr. Ses défauts, on en parlait un petit peu avant. Je crois que moi j'ai cette phrase que je t'ai dit tout à l'heure, mais pour moi tout ce qui est lisse et glisse, donc tu vois, la perfection, déjà c'est un imaginaire, la perfection, encore une fois, la perfection elle se définit dans les regards de l'autre, c'est-à-dire que chaque personne a un caractère avec des défauts et des qualités. Mais c'est ton caractère. Après, les défauts et les qualités, c'est l'œil de la personne qui juge qui va les définir. Et donc, la perfection, c'est l'œil de la personne qui juge. Mais ce qui est parfait pour un ou pour une...
Ce ne sera pas pour l'autre.
Donc, ce qui va faire intéressant, c'est les aspérités, c'est l'imperfection, ce qui va... Voilà.
Est-ce que tu t'es détaché de certaines fringues ?
Pas trop, en fait.
Non, ça, tu n'as pas changé.
Non, tu vois, ce pull, je ne sais pas si je l'avais il y a 7 ans, mais... En fait, je garde mes fringues.
Oui,
d'abord, je rentre toujours.
De toute façon, tu n'es pas dans l'ultra consommation.
Non, un peu trop quand même, parce que j'aime bien la mode, donc j'aime bien acheter des choses, et donc je suis pas dans l'ultra consommation.
Ah, mais l'autre fois, tu me disais que tu étais surtout à la recherche de bons plans.
Ouais, c'est toujours vrai.
De bons plans et de belles fringues bien coupées. Ça,
ouais.
C'est
et tu vois, j'ai trouvé une marque entre les deux, la marque de ce pantalon là, que j'adore, qui est pour moi le maxi bon plan pour homme. Qui s'appelle Bonaparte 13 ou 13 Bonaparte, je ne sais plus dans quel ordre ça va, qui sont des fringues genre ultra bien coupées.
C'est une marque française, ça.
Ouais, il y a une seule boutique à Paris qui est dans le Marais. C'est hyper bien coupé, c'est hyper beau, c'est pas très cher. Et je trouve ça magique, quoi. Franchement, il fait jamais de solde, du coup, mais cette marque, elle est incroyable, tu vois, typiquement.
Et ton rapport avec tes copines, alors ? Tu fais toujours du shopping avec elles ? Ou un peu moins ? Parce qu'il y a moins de boutiques.
Bah, à Lisbonne, il n'y a pas de boutique, donc comme ça, c'est vite vu. Mais, donc, tu ne fais pas de shopping à Lisbonne.
Ouais, tu fais à Paris?
Je fais à Paris, moi, j'achète assez peu. À Paris et en ligne aussi, il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Sunspell, qui est une marque anglaise. Qui...
Justement, à propos des ongles. Tu m'avais dit que l'homme anglais ne draguait pas, on avait parlé de la drague.
Ah oui,
j'encourage vraiment à écouter cet épisode parce qu'il était très frais.
Plus, moi, je l'ai pas écouté.
Tu m'avais dit que les Anglais ne draguaient pas. Du coup, les Anglaises s'habillaient d'une manière assez provocatrice.
Oui.
Alors après, on a glissé sur l'élégance à la milanaise, l'élégance à la parisienne.
D'accord.
Quelle est l'élégance à la portugaise?
Ah. Écoute, alors... Je ne sais pas répondre. Parce qu'en fait, ça va être triste ce que je vais dire, mais la majorité des gens que je croise à Lisbonne sont des internationaux. Il y a quelque part, bien sûr, des Portugais, mais qui sont intégrés dans cette communauté internationale. Et la communauté internationale à Lisbonne, elle est centrée sur le bien-être. Et donc, il y a un petit côté hippie chic à Lisbonne, qui est très puissant. Donc, en fait, l'élégance... à Lisbonne, ça va être surtout ça, mais en fait, ce que j'ai observé, comme beaucoup de villes de plage, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement que les personnes ne sont pas assez élégantes, que ça manque d'élégance, tu vois, parce que les gens sont en short, en t-shirt, ou avec des kimonos pour aller à la plage, pour aller en fête, etc.
Alors, je vais retenir une dernière question, parce que l'épisode, sinon, on va rester une heure. le pire fashion faux pas à l'époque, tu t'en souviens?
Le mien?
Non, non, tu m'avais parlé, tu m'avais dit que tu n'en avais pas fait, mais tu avais deux trucs que tu ne pouvais pas voir.
Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. sans doute un truc que je...
Peut-être... Une marque que tu n'aimais pas, notamment.
Nike?
Non.
Non.
Pourquoi tu n'aimes pas Nike?
Parce que Nike, c'est une marque... qui très cynique en fait, c'est ça que j'aime pas chez Nike. C'est même pas tant que ils fassent du mal que le cynisme derrière, c'est-à-dire qu'en fait c'est une marque qui
tout l'argent qu'il y a derrière.
Non, bon,
même pas ça.
Non, ce qui me gêne profondément avec Nike, c'est cette posture en Occident de women power, women empowerment, enfin tout ce qui est pour les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, ok. Et la réalité de la marque qui est des femmes ouïghours qui font les fringues et qui sont esclavagisées. Et ce cynisme-là, je le trouve vraiment. Tu vois, à la limite, tu fermes ta gueule. Bon, il y a plein de marques qui travaillent avec les ouïghours. Decathlon en fait partie.
Mais ils font pas de leçons.
Mais ils sont pas en train de donner des leçons aux femmes en disant libérez-vous, etc. Je trouve que c'est vraiment moche. Enfin, moi en tout cas, ça me gêne vraiment profondément qu'une marque puisse faire ça. Mais bon, voilà.
La dernière fois, c'était Disaigual.
Ah ouais, Disaigual, ouais, bah oui. Alors ça, je confirme, je signe. Je savais même pas que ça existait encore. Tu vois.
Est-ce que tu te souviens? Ah si, quand même.
J'ai pas répondu sur les faux pas.
Ah là, oui, alors un fashion faux pas.
Peut-être pour les hommes ou pour les femmes. Pour les femmes, un truc que j'aime toujours pas, c'est les soutifs qui dépassent des robes.
Ah oui, ça, tu nous en avais parlé.
J'ai du mal à saisir ce truc. Les Américaines font beaucoup ça. Et, tu vois, mettre des super belles robes avec un soutif qui dépasse. Tu sais, la grosse, pas les bretelles, bien sûr, mais vraiment le derrière du soutif, je trouve ça assez moche.
Ah, t'es constant. Hein. Ouais. Tu l'avais raconté, le toit.
Tu vois, comme quoi, on devient. Vas-y.
Non, tu m'avais parlé aussi des logos que tu ne supportais pas.
Ah ouais, mais je porte toujours pas de logo. Je pense que, entre-temps, je sais pas si t'as vu, il y a eu comment on appelle ça, c'est quiet luxury,
ouais.
Cette tendance, mais qui est ça. En fait, le quiet luxury, c'est de mettre des fringues assez chères. Sunspell, c'est exactement ça. Tu vois, j'en parlais, cette marque anglaise.
Donc ça, tu te sens dans le quiet luxury?
Ouais. Sunspell, c'est précisément ça, c'est hyper cher. Bon, j'achète toujours en solde, mais j'achète pas du tout en seconde main. C'est un truc que je sais pas faire, que je fais pas. Je sais pas si c'est un truc de mec ou si c'est moi juste. J'avoue.
Pourquoi?
Je sais pas dire. D'abord, je garde mes fringues très longtemps moi-même, et la seconde main, c'est pas un truc qui m'attire. Je sais pas. C'est un truc qui m'échappe un peu.
C'est un manque de réflexe peut-être, ou
j'ai pas le réflexe,
ou c'est
j'ai...
le fait de porter des vêtements qui ont déjà été portés?
Non, j'ai un peu les deux, je sais pas, franchement c'est pas du tout un réflexe chez moi. Et Sunspell, pour revenir sur ça, c'est une marque assez chère, très belle, c'est des belles matières, c'est tout beau, mais il y a pas de logo, il y a rien, la marque personne connaît d'ailleurs, à part dans les cercles, enfin je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent Sunspell, mais majoritairement les gens connaissent pas, enfin je veux dire, c'est pas...
Et c'est de l'intemporel aussi,
c'est complètement intemporel.
Est-ce que tu as gardé ton pull tricoté par ta maman, ton pull de skater?
Alors en fait, je l'ai pas retrouvé. J'aimerais bien le retrouver. Je l'ai pas. Et je l'ai cherché et je l'ai pas. J'ai demandé à ma mère encore il y a pas longtemps. Enfin, c'était cet hiver et je sais pas où il est. Donc non, je l'ai pas, malheureusement.
Est-ce que pour toi, la vieillesse est un naufrage ?
C'est un naufrage si tu décides que ça l'est. D'abord, de manière assez intéressante, en France, on s'intéresse pas trop à la longévité. Moi, je pense que la longévité, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. J'ai fait un épisode dernièrement, qui est pas diffusé, j'ai enregistré cette semaine, sur la longévité. On peut vivre en bonne santé très longtemps. Ça suppose de prendre bien soin de sa santé quand même et de prémunir. Et donc moi,
Font les Chinois.
Comme font les Chinois et comme permettent les sciences aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, tu peux vraiment prévoir, comprendre. Moi, tu vois, j'ai un petit bracelet là qui me permet de savoir plein de choses sur moi. Et par exemple, tu vois, un verre de vin.
Le bracelet montre ou
c'est pas, il n'y a pas de montre. Ah. Non, non. Là, c'est une petite batterie qui est dessus parce qu'il n'y a plus de batterie dedans.
Ah,
mais non, il n'y a pas de montre. Y a pas de... Je voulais pas d'écran à mon poignet. Pas un écran digital en plus, en tout cas. Mais par contre, tu vois, pour le jour de l'an, j'ai bu un verre de vin et j'ai vu l'impact que ça avait sur mon corps direct. C'est fou. Mmh. Et du coup, tu te dis, waouh, un verre, tu vois, c'est pas 50 verres, c'est juste un verre. Et tu vois, de comprendre ça, de comprendre le
ce
rôle du sucre.
Ce qui te fait du bien aussi, tout ça.
Ouais, ce qui te fait du bien, le rôle du sucre, le rôle du sommeil, etc. etc. Donc, tu peux vivre en bonne santé très longtemps. Et puis après, tu vois, comme Perla Servan-Schreiber, que j'ai reçu deux ou trois fois sur mon podcast, dirait, je pense que c'est, ce qui compte, c'est la joie, tu vois. Si tu vieillis avec joie, si t'as justement de la gratitude pour la vie, on en parlait tout à l'heure.
Ah ben bah c'est un rayon aussi. De soleil, je l'ai eu dans Chiffon aussi.
Ouais, bah elle est géniale. Et en fait, si t'as de la gratitude pour la vie, mais en fait, t'es pas du tout en train de, t'es pas en train de chavirer, hein, vraiment pas.
Alors sur ce, bon, je vous encourage à aller acheter le kit de secours pour cœur brisé. On le trouve ?
On le trouve sur un site web qui s'appelle empower.cards.
Mmh. Donc, je mettrai le lien.
Ouais, voilà, c'est Empower, donc comme Empower et point cards avec un S.
Seulement par ce biais ?
Ouais, pour l'instant, oui, parce qu'en fait, on a imprimé 500 exemplaires pour tester, pour voir si les gens répondaient, si ça leur parlait, etc. Et ensuite, on va imprimer à plus large échelle et on va trouver des distributeurs, mais pour l'instant, on n'en a pas.
Bah écoute.
Donc, s'il y a des gens qui veulent distribuer, il faut qu'ils nous disent aussi.
Voilà. Et puis, si vous voulez, Greg est encore un cœur à prendre. Voilà. Voilà. Donc, vous savez tout. Vous pouvez aller sur son compte Instagram. Je vous mets en lien. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Ça a été un moment, tu vois, un épisode de Chiffon spécial.
Ouais.
On a parlé de gratitude, de bonheur et finalement très peu de chiffon. Parce que finalement, c'est secondaire.
Bah, complètement secondaire.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.